Chers auditeurs, bonjour, vous écoutez La Méridienne. Connaissez-vous MAVIVH, M-A-V-I-V-H, morphogénèse et antigénicité du VIH et des virus des hépatites? Il s'agit de l'unité INSERM U-1259. L'U-1259 est une équipe multidisciplinaire impliquant des chercheurs, des enseignants-chercheurs en virologie, biochimie, biologie cellulaire et santé publique. Aujourd'hui, nous échangeons avec Jean-Christophe Meunier et Julien Marlet. Tout d'abord, un mot sur leur situation de chercheurs dans le contexte de crise sanitaire due au Covid-19.
Ah. Alors, il y a deux types de personnes, en fait, en ce qui concerne la santé. Et là, je ne sais pas qui sont les vénards et qui sont les autres, mais... Donc, il y a ceux qui ont une activité hospitalière et qui, donc, ont continué leur activité hospitalière d'une façon peut-être un petit peu bousculée par, justement, la présence du coronavirus. Donc, ça, c'est le cas de Julien, notamment, tous les praticiens hospitaliers, en gros. Et puis, il y a les chercheurs, comme moi, qui n'ont pas d'activité hospitalière et qui, donc, sont séquestrés dans leur appartement, mais... Ça n'empêche pas. Donc, en ce qui me concerne, écoutez, on a toujours beau... Enfin, comme je vous le disais, malheureusement, je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur et voilà, ça change finalement pas tant de choses que ça. Justement, ce genre de période nous permet de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant. On n'a pas trop le temps de faire de la biblio, on n'a pas trop le temps de se pencher sur la définition de nouveaux projets. Donc là, on fait beaucoup de rédaction, on rédige des articles, on rédige des revues, on prépare des projets, on corrige les articles des autres, puisqu'on continue à faire de la review pour différents journaux. On continue à travailler, puis on prépare la rentrée à partir du 11. En fonction de ce qui nous sera possible de faire, mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne ceux qui sont confinés chez eux, on continue à travailler quand même malgré tout et on travaille pas mal. Et en ce qui concerne donc les hospitalo-universitaires, Julien va vous raconter ça.
Effectivement, en ce qui concerne les hospitalo-universitaires et plus particulièrement les hospitalo-universitaires du laboratoire de virologie du CHU. Notre activité a été quand même pas mal chamboulée par la pandémie Covid-19, puisqu'il a fallu tout d'abord mettre au point les tests de PCR qui sont utilisés pour faire le diagnostic de l'infection. Ensuite, il a fallu monter en capacité de test assez rapidement, mettre des ressources humaines en quantité suffisante, avoir des quantités de réactifs et des quantités d'écouillons pour faire les tests en quantité suffisante. Et ça n'a pas été facile, ça n'est pas facile et ça continuera à être difficile. Et puis, il a fallu réorganiser notre quotidien, donc une grande partie de notre temps, si ce n'est pas tout notre temps, a été orienté sur la gestion de la pandémie Covid, alors qu'on avait d'autres activités, des activités d'enseignement, des activités de recherche et des activités de virologie autres. Donc on a dû s'organiser pour faire face à cette pandémie qui a été très chronophage pour nous, mais aussi quand même riche en enseignement. Je pense qu'on ressortira, j'espère, de cette pandémie avec... une expérience et une capacité de gestion et de prise en charge de ce type d'événement qui sera meilleur que par le passé. Donc c'est vrai que notre quotidien est vraiment pas mal chamboulé. On essaie d'en tirer le positif, s'il y a du positif à tirer. Et puis pour la recherche, c'est vrai que c'est comme Jean-Christophe vous l'a expliqué, ça chamboule un peu l'activité de recherche. Les expériences ne peuvent plus avoir lieu puisque l'université est fermée. Donc toute la recherche en France a été mise en pause. Ça, c'est un point important. Mais comme vous le disait Jean-Christophe, c'est à nuancer un petit peu puisqu'on peut continuer à faire certaines tâches de recherche devant notre ordinateur. On peut écrire des articles scientifiques. On peut relire des articles scientifiques qui vont être publiés par d'autres. Donc, on peut quand même continuer d'une certaine manière à faire avancer un peu la recherche en France. De notre côté, le 11 mai, ce qui va se passer, c'est principalement d'être en mesure de proposer une capacité de test qui soit démultipliée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, démultipliée pour pouvoir tester tout patient qui présenterait des symptômes compatibles avec une infection par le Covid-19. Donc tous les CHU, de nombreux CH, centres hospitaliers sont mobilisés, et les laboratoires privés aussi sont mobilisés en France pour augmenter leur capacité de test et proposer à tout patient qui présenterait des symptômes d'infection d'être testé à partir du 11 mai, et ce pour éviter toute seconde vague. Donc ça, c'est ce que nous, on propose. C'est toute notre énergie est concentrée là-dessus actuellement. Et tout le reste, je pense que c'est du ressort de la prédiction, c'est du domaine des épidémiologistes, ou alors c'est de la prédiction. Et je pense qu'on peut difficilement vous dire ce qui va se passer. 11 mai, je peux vous dire ce à quoi on se prépare, en tout cas. Voilà. Delta
on the beach. Venu comme un vil voleur qui cogne. Depuis l'Orient, il massacre sans vergogne. Une pandémie qui ne laisse personne indifférente. Riche ou pauvre, à nos gouvernants, prenez la mesure de l'enjeu. À nos populations, soyons responsables. Respectons les mesures tous ensemble.
Coronavirus. On n'a pas le choix, figuez ta gueule, ça finit ni gel hydroalcoolique.
Yeah, plus de quoi, plus de regroupement.
C'est quoi ça?
Les portes sont fermées, plus de réjouissance. Mais où va mon pays? À cause de toi, Corona, je peux pas saluer mon ami. À cause de toi, Corona, je peux pas embrasser mon ami. À cause de toi, Corona, le pays va mal. Va mal.
Ibe kako chama chen Kazenes beba chorola Anfana mba bebe mirila Ko ala kankisi ni Panama Coronavirus Panama Kajama na beri domine Vatan ni chenu antife
Nisira na kwananye Panama yinde Herne kuro jeseva Panama yisa Ala niye nabila ayuba keneya Ala kani panayimba Beka fo amina ya rabi.
Amina ya rabbi.
Ele dugoni oijoi. Die la baba na jugu chayara. Ala baba anuga kan jugu ya lulaje. Jamana ye maumana kumi fo anga jugu oko. No kanga minke anga jengu ke. No kanga mintu anga jengu tu.
Ya forana wake tontenga. Nothing sam tondo.
Kesra wasanga si pepe,
si akuru numa ni pepe.
Kato kesra wasanga si pepe.
Coronavirus, il faut que tu te cartes. N'embrouille pas notre barque, il faut que tu te cartes. Coronavirus, c'est la panique à bord. Avec ton corollaire de mort, tu fais des ravages de manière sauvage. Partout sur la planète, tu sembles faire la fête. Mais t'inquiète, ici au Faso, ça sera tard de fête.
Coronavirus, c'est fini pour toi. Tu pensais que tu pouvais nous terminer. On a trouvé des solutions à ton problème. La bonne mère régulière m'avait dit ça va. Portons nos max, tu es la vaincue.
to de mi gere no na na ni fa no aya janto pa so ni vere do la tri ma no le aya janto foli bambali no ta tamanyo no le batenya foli bambali ho coronavirus
coronavirus cette épidémie qui nous vient directement de la Chine. Hier c'était Ebola, autrefois grippe aviaire. Aujourd'hui coronavirus, cette maladie qui rabat tout sur son passage. Je dis non, non, coronavirus, yeah, 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 yeah. Coronavirus, yeah, yeah.
Ni malou ni kokera kamana banye.
Coronavirus.
Cheni musolu ni kokera kamana banye.
Coronavirus.
Ne bali malu ni kokera kama na banye
kuna gris
chemi musolu ni kokera kama na banye
kuna gris
lu 1259 de l'Inserm. Morphogénèse et antigénicité du VIH et des virus hépatiques, MAVIV en plus court, concentre donc ses efforts sur les virus des hépatites, virus liés au foie. Jean-Christophe Meunier et Julien Marlet mènent actuellement un projet de recherche sur le virus de l'hépatite E.
Et puis le foie, c'est aussi un organisme qui est très important pour le métabolisme des lipides. Alors, on peut se passer du foie pour l'aspect gestion des lipides, mais on ne peut pas se passer de foie. Les virus sont c'est un des acteurs qui peut détruire notre foie. Alors, la principale cause des lésions du foie dans notre pays, en France, ça va être l'alcool, donc pas un virus. Mais juste derrière l'alcool, on va trouver les virus. Les virus, notamment des hépatites B et des hépatites C, qui sont capables d'infecter le foie et qui sont capables d'infecter le foie de manière chronique, c'est-à-dire que l'infection va persister et va induire des lésions au niveau du foie. En fait, le virus va se multiplier dans le foie des patients infectés pendant plusieurs mois, plusieurs années, et cette multiplication va être détectée par le système immunitaire qui va essayer d'éliminer les cellules du foie qui sont infectées. Et en essayant d'éliminer le virus, alors il va se passer deux choses. La plupart du temps, il n'y parvient pas ou pas totalement, donc l'infection se poursuit. Et il va détruire une partie du foie, une partie des cellules. En détruisant ces cellules, on génère une inflammation, comme quand vous vous blessez, quand il y a une cicatrisation, vous voyez une rougeur, une inflammation, bien, il se passe la même chose au niveau du foie. Et il faut imaginer que cette inflammation se produit en continu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années chez les patients qui sont infectés par le virus de l'hépatite B et de l'hépatite C. Et cette inflammation chronique va entraîner la production d'un tissu qui n'est plus un tissu fonctionnel au niveau du foie. On parle d'une fibrose. Donc le foie va perdre de sa fonctionnalité. Il ne va plus être capable de jouer son rôle d'usine de l'organisme. On peut avoir des patients qui développent des symptômes, des complications de ce type de lésion, de fibrose. Et puis à un stade plus avancé, on va passer à un stade qu'on appelle la cirrhose, où là aussi le foie n'est plus fonctionnel et peut survenir chez ces patients qui ont une cirrhose, une complication encore plus difficile à gérer, qui est le cancer du foie. Donc ça, c'est le stade ultime, la complication ultime des infections chroniques par les virus de l'hépatite B et de l'hépatite C qu'on étudie. Alors tous les virus des hépatites ne sont pas à mettre sur le même plan. On s'intéresse dans notre équipe aussi au virus de l'hépatite E, qui est un virus qui donne des hépatites, qui est moins connu. Ce virus, chez la plupart des patients, ne donne pas d'infection chronique, et donc ne va pas donner ni de cirrhose, ni de cancer du foie. Donc il est moins connu de la population, et il pose moins de problèmes en santé publique. Néanmoins, c'est quand même un virus qui est très important d'étudier, pour principalement deux raisons. La première, c'est que c'est un virus qu'on retrouve assez fréquemment, assez facilement, dans certaines viandes qu'on peut consommer. notamment de la viande de porc ou dans certains gibiers, notamment le cerf. Donc c'est ce virus de l'hépatite E. On peut être amené à en consommer, on peut être amené à être infecté par le virus de l'hépatite E si on consomme de la viande mal cuite. On estime que presque un quart de la population française a rencontré ce virus. Et la plupart du temps, on s'en porte bien. L'infection est assez asymptomatique. Mais certains patients vont, lorsqu'ils rencontrent le virus, développer des formes graves qui ne seront pas des formes chroniques, mais qui seront plutôt des formes très, très brutales, on va dire, de l'infection. On parle d'hépatite fulminante. Donc, c'est des patients qui vont manger de la viande mal cuite et qui vont malheureusement développer des complications type d'hépatite fulminante. Donc, dans ces complications, ce qui se passe, c'est que le système immunitaire va tenter de détruire le virus et il va en fait détruire quasiment totalement le foie du patient qui va se trouver dans une situation gravissime qui nécessitera un traitement radical qui est la transplantation hépatique. Heureusement, c'est une complication très rare de l'infection. Mais elle arrive, elle peut arriver, et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître ce virus, de savoir comment se développe l'infection. Et une autre raison pour laquelle on a besoin de connaître ce virus, c'est qu'il est, il peut toucher de manière un peu plus sévère les patients qui sont les plus fragiles, notamment les patients qui sont greffés d'organes, les patients immunodéprimés, qui, lorsqu'ils sont infectés par le virus de l'hépatite E, peuvent développer des formes chroniques. Et donc là, on retombe sur les mêmes complications que je vous ai décrites pour le virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, avec des risques de cirrhose et de cancer. Donc globalement, on voit que ces virus des hépatites peuvent être problématiques en santé publique chez l'homme, avec des formes chroniques pour certains virus, l'hépatite B et l'hépatite C notamment, l'hépatite E dans certains cas, et puis peuvent être problématiques dans la population générale, par simple consommation d'une viande mal cuite pour ce qui concerne l'hépatite E.
Alors j'aimerais bien dire un mot aussi sur les travaux antérieurs que vous avez pu faire, messieurs. Je crois que Jean-Christophe Meunier, vous avez travaillé avec Éric Pivert sur le virus de l'hépatite C. Donc, mais est-ce que vous voudriez rappeler pourquoi c'était une découverte importante, pourquoi ce virus était dit invisible et comment vous avez fait pour le trouver ?
Effectivement, donc c'est des travaux que nous avons fait en collaboration avec Éric Pivert, qui est MCUPH. Et donc, le virus de l'hépatite C, c'est un virus qui a été découvert en 1989 par un Canadien. Et depuis cette année 1989, personne n'avait été capable de le visualiser en microscopie électronique. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'en général, les virus, on les identifie par microscopie électronique. Quand on découvre une nouvelle pathologie, on récupère des échantillons chez un patient, on met ça sous un microscope électronique en transmission, et on essaye d'observer le pathogène qui crée la pathologie. Et avec le virus de l'hépatite C, ça avait été impossible, et du coup, on avait été obligé de caractériser par des techniques de biologie moléculaire. Et donc voilà, pendant 30 ans, les gens se sont escrimés à essayer de faire des photos du virus de l'hépatite C, et ça n'avait jamais marché. Mais en fait, on s'est aperçu au cours du temps que ce virus, donc, détourne les composants du métabolisme des lipides, c'est-à-dire qu'il se déguise en lipoprotéines. Les lipoprotéines, ce sont des structures qui permettent de distribuer les lipides à partir du foie. Donc, le foie produit ces lipoprotéines, qui sont des espèces de sphères de gras, et qui vont aller distribuer les lipides aux cellules périphériques. C'est du carburant hein, pour les cellules, tout ça. Et donc, le virus a acquis la capacité, au cours du temps, de ressembler à une lipoprotéine. Donc, tous les gens qui ont essayé d'observer le virus, en fait, peut-être qu'ils le voyaient, mais ils ont confondu ce virus avec une lipoprotéine. D'autant que les lipoprotéines sont des structures assez fragiles, et qu'en général, les techniques de préparation des échantillons viraux sont des techniques assez violentes quand même, pour les purifier, les centrifuger, etc. Et donc, Éric et moi, on s'est dit en fait que le problème, c'était probablement la préparation des échantillons et qu'il fallait trouver une stratégie pour pour préparer les échantillons viraux d'une façon beaucoup plus douce et de façon à respecter la structure virale. Et donc, c'est ce qu'on a fait, en fait. On a mis au point une stratégie de préparation des échantillons qui était assez innovante, et ce qui nous a permis, entre le moment où on récupère le sérum de patient, par exemple, et le moment où on observe les virus sous notre microscope, de limiter au maximum les étapes de préparation, de purification, etc. Et donc, en utilisant cette stratégie innovante, effectivement, en 2018, nous avons réussi à observer pour la première fois ce virus en microscopie électronique. Et ce qui était assez intéressant, c'est que même si on n'avait pas observé directement, on avait des informations sur la structure de ce virus par toutes les techniques de biologie moléculaire qu'on avait pu utiliser par le passé. On avait un peu une idée quand même de ce à quoi il ressemblait en termes d'organisation. Et quand on a fait cette photo, on s'est aperçu que ça correspondait tout à fait à ce que les chercheurs avaient imaginé à partir des résultats de biologie moléculaire qui étaient disponibles. Donc, effectivement, c'est un virus qui est totalement différent du reste du monde viral. C'est un virus qui est très peu organisé. En général, chez les virus, on a une nucléocapside, c'est-à-dire la boîte qui protège le génome viral. Les virus ont une nucléocapside qui est très organisée, très symétrique. Alors que le virus de l'hépatite C, pas du tout, c'est une espèce d'amalgame entre le génome et les protéines de capside. Et le virus lui-même ressemble pas du tout à un virus. C'est un virus qui, d'une forme et d'un diamètre très variable, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et voilà, ça a été sa façon de s'adapter à l'organisme qui va parasiter, justement, en utilisant ce système du métabolisme des lipides. Parce que le métabolisme des lipides, c'est un système extrêmement puissant, qui produit énormément et qui est extrêmement robuste. Et en s'associant à ce métabolisme, ben, en fait, la production du virus va être accéléré et ça, il va pouvoir s'appuyer sur ce système pour sa morphogenèse. Donc voilà, c'est une nouvelle stratégie que nous avons mis au point pour observer ce virus, mais par la suite, on a eu l'occasion de l'utiliser à d'autres applications et d'autres personnes que nous ont eu l'occasion d'utiliser cette nouvelle stratégie. C'est une technologie qui permet de caractériser les virus d'une façon dont on n'avait pas l'habitude de le faire avant. Ça nous permet de caractériser la taille moyenne des particules virales, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas la possibilité de faire avant. Et cette nouvelle technologie, justement, nous a permis de mettre en évidence que le virus de l'hépatite E, apparemment, avait des caractéristiques qui ressemblaient beaucoup à celles du virus de l'hépatite C. Et ce qui nous a amené à penser que le virus de l'hépatite E, lui aussi, probablement détournait les composants du métabolisme des lipides. Et c'est pour cette raison qu'on s'est intéressé à lui. En fait, au départ, on a travaillé sur le virus de l'hépatite E au cours d'une collaboration avec Laurence Coquerel, qui travaille à l'Institut Pasteur de Lille, et qui, elle, travaillait sur le virus de l'hépatite E depuis un certain temps, et elle nous avait demandé de caractériser pour elle, avec cette nouvelle technologie, ces populations virales. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est aperçu que les populations virales du virus de l'hépatite E étaient complètement hétérogènes en termes de taille et de structure, exactement comme ce qu'on avait observé pour le virus de l'hépatite C. Donc, elle a continué sur son projet qui n'a pas de rapport avec le métabolisme des lipides. Et nous, du coup, on a compris que il y avait quelque chose à faire avec le virus de l'hépatite E, et on s'est mis à travailler sur le virus de l'hépatite E.
Alors Jean-Christophe Meunier, est-ce que vous pouvez mesurer en fait les impacts qu'ont eu votre découverte pour votre laboratoire, hein, en termes de reconnaissance, peut-être en termes de financement, et sur le, comment d'autres laboratoires ont pu l'utiliser. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont pu avancer grâce à votre découverte ?
Les projets qui ont... C'est-à-dire que c'est une technologie qui a été utilisée par d'autres laboratoires, mais au cours de leurs expériences. Nous, ce qui nous a... ce qui nous a intéressé, c'est justement une technologie qui nous a permis de caractériser d'autres virus hépatiques. Et si on n'avait pas disposé de cette technologie, on n'aurait pas pu réaliser que le virus de l'hépatite E, lui aussi, avait des caractéristiques communes avec le virus de l'hépatite C. C'est une nouvelle façon d'observer les virus, et c'est une nouvelle façon qui n'était pas disponible avant. Donc après... c'est une technologie ensuite qui est disponible pour tout le monde. Après, les gens l'utilisent un petit peu comme ils ont envie. Nous, ça nous a permis de développer un nouveau domaine de recherche au laboratoire, puisqu'on s'est mis à travailler sur le virus de l'hépatite E, justement grâce à cette collaboration avec Laurence Coquerel, et donc grâce au fait qu'on s'est aperçu que ce virus, probablement, lui aussi, se comportait un petit peu comme le virus de l'hépatite C. Et pour faire une petite parenthèse, il y a ça fait un an à peu près, un laboratoire chinois a publié dans une publication sérieuse travaux sur le virus de l'hépatite B. En fait, il s'avère que le virus de l'hépatite B, lui aussi, utilise les composants du métabolisme des lipides pour stimuler sa morphogenèse. Donc, il semblerait que tous les virus hépatiques, en tout cas ceux qu'on a étudiés, utilisent ce métabolisme des lipides, ce qui n'est pas forcément étonnant, puisque, comme je l'ai dit, c'est un métabolisme extrêmement robuste, et si les virus s'appuient dessus, ben justement, ça va stimuler grandement leur morphogenèse.
Thank you.
bien Marley. Alors, il me semble qu'en 2018, vous avez fait un appel aux dons pour développer un nouveau test biologique pour l'hépatite B. Alors, est-ce que ce test est à présent utilisé dans d'autres laboratoires ? Est-ce qu'il a été amélioré ? Et quel impact ce test a sur la prise en charge des personnes atteintes ?
On a sollicité une aide de la donateur pour financer ce projet de recherche qui avait vocation à permettre le développement d'un test biologique pour mieux comprendre et mieux explorer les échecs de traitement du virus de l'hépatite B. Et donc l'objectif, c'était et c'est toujours de pouvoir mieux prendre en charge les patients qui sont infectés par le virus de l'hépatite B et notamment mieux prendre en charge les patients qui ne répondent plus au traitement, comprendre pourquoi ils ne répondent pas au traitement et donc pouvoir leur proposer la meilleure alternative thérapeutique possible. Donc ce qu'on a fait déjà, grâce au financement qu'on a obtenu, en financement participatif, c'est de mettre au point le test en partant pas de zéro, en partant de ce qui était déjà décrit dans la littérature, des choses qui ont déjà été faites par d'autres équipes. Donc on est parti de tests qui avaient déjà été mis au point, on a essayé d'améliorer et d'adapter ces tests, et puis surtout, on les a appliqués à une population particulière, à un groupe de patients particulier qu'on a ici, qui sont des patients suivis en région centre. Donc des patients qui sont en échec d'un traitement particulier de l'hépatite B, une molécule qui porte un nom qui s'appelle l'entecavir. Donc c'est un des deux grands traitements de l'hépatite B. Il y a l'entecavir et puis un autre médicament qui s'appelle le tenofovir. Les deux principaux traitements. Et donc, pour ce traitement particulier, on avait constaté à l'hôpital des échecs de traitement qui étaient inexpliqués. On ne savait pas pourquoi les patients ne répondaient pas au traitement. Et puis surtout, on ne s'était pas arrêté là, on avait exploré ces échecs de traitement à l'hôpital avec un test qui est développé dans tous les CHU, tous les hôpitaux universitaires en France, qui est un test génotypique. Donc, ce test, en fait, qui est un test de routine dans les laboratoires de virologie, consiste à aller étudier le génome du virus et à aller regarder pour chaque patient donc, si le génome du virus comporte des mutations de résistance. Donc en fait, c'est des changements, des modifications dans le virus qui infecte le patient et ces changements ont pour conséquence de bloquer en fait, l'action du médicament, donc le médicament, l'antiviral, que prend le patient, n'est plus capable d'aller bloquer la multiplication du virus, parce que le virus a changé, en fait, il a changé de conformation en quelque sorte, il n'est plus bloqué par le médicament. Donc on a recherché ces mutations de résistance, qui sont en fait les causes, une des causes principales d'échecs de traitement, et puis on ne les trouvait pas, ces mutations de résistance, donc on s'est dit qu'il fallait aller plus loin, il fallait aller étudier le virus avec d'autres outils, et c'est pour ça qu'on a développé ce nouveau test, donc qui est un test qui s'appelle un test phénotypique de résistance, donc par opposition au test génotypique. Alors qu'est-ce qu'un test phénotypique ? C'est un test en fait qui permet de reconstituer un peu l'infection par le virus de l'hépatite B en laboratoire. En fait, on va mettre le virus de l'hépatite B en culture sur des cellules qui vont être des cellules dérivées de cellules de foie, donc qui vont un petit peu être un modèle de ce qui se passe dans notre foie. Donc on prend le virus du patient, on le met en culture sur des cellules de foie et on rajoute l'antiviral que prend le patient. Et là, on va regarder ce qui se passe. On va regarder si l'antiviral permet de bloquer la multiplication du virus. Et donc, pour une certaine partie des patients, pour vous faire un résumé de nos travaux, pour une certaine partie des patients, on s'est aperçu que ce qui se passait en culture n'était pas totalement, comment dire, ne correspondait pas à ce qui avait été prédit par l'étude du génome viral. Pour reformuler, en fait, on a obtenu des résultats intéressants avec notre test phénotypique. On a vu des choses qu'on ne voyait pas avec les techniques utilisées habituellement à l'hôpital. Et donc ça, c'est très intéressant parce que, de manière plus concrète, ça permet de mieux décrire le génome du virus. Et mieux décrire le génome du virus, ça veut dire peut-être identifier des nouvelles mutations de résistance. Et ces nouvelles mutations de résistance peuvent être recherchées par des tests relativement simples dans tous les CHU de France, qui sont des tests relativement simples que je vous présentais précédemment, qui sont des tests génotypiques. Donc en fait, on boucle la boucle, on part d'un test réalisé dans tous les hôpitaux, on explore de manière plus complète en recherche avec un test assez compliqué qu'on a mis au point grâce à ce financement, et on produit des résultats qui pourront être utilisés dans tous les CHU de France avec des tests relativement simples. Donc ça, c'est un bel exemple de... En tout cas, c'est un exemple de recherche qui implique les hôpitaux et les universités. Donc on a un lien très étroit entre l'hôpital et l'université qui profite aux deux intervenants et qui profite, on l'espère au final, aux patients.
Et donc cet appel aux dons, est-ce que c'est une pratique qui est fréquente? Est-ce qu'elle est indispensable? Voire est-ce qu'elle est regrettable?
Alors, c'est très important, les dons, en tout cas, si on prend un peu de recul, déjà les financements. Il faut savoir que les équipes de recherche en France ont très peu de financements récurrents. C'est-à-dire que chaque année, on nous attribue une petite somme d'argent qui ne permet pas de mener à bien nos projets de recherche. Ça permet en général de payer, enfin, le personnel a un salaire qui est en général réglé par l'université ou l'INSERM ou l'hôpital. Mais pour les projets de recherche, pour financer le matériel, pour financer les réactifs, pour financer éventuellement des personnels additionnels, il faut qu'on aille chercher nous-mêmes des financements. Alors il y a plusieurs moyens pour ça. On peut écrire des projets et les soumettre à des organismes comme la Ligue contre le cancer ou l'Agence nationale pour la recherche pour le sida et les virus des hépatites. Ça, c'est une première possibilité. Ça demande du temps et les chances de succès sont modérées, variables selon les organismes et selon les projets. Et puis, il y a une alternative qui, elle aussi, demande du temps. Mais qui est totalement différente dans son approche, qui est le financement participatif. C'est beaucoup moins développé pour la recherche. Ça l'est dans d'autres domaines, par exemple la musique, les jeux vidéo ou des concepts autres. Et pour la recherche, ça se développe de plus en plus. J'espère que ça va se développer de plus en plus. Et donc, et bien là, ce qui est différent, c'est qu'au lieu de solliciter des instances nationales qui vont vous attribuer une somme d'argent après évaluation de la pertinence de votre projet, là, vous allez solliciter plutôt vos cercles d'amis, votre famille et les citoyens de votre ville, de votre département, de votre région, qui vont s'identifier au projet, soit parce que c'est un projet local, soit parce que c'est un projet qui leur semble pertinent en termes scientifiques. Mais là, vous allez solliciter directement les citoyens qui vont choisir ou pas de financer votre projet. Et donc, ils deviennent directement acteurs d'un projet, un projet qu'ils ont choisi, et pour lequel ils pourront se considérer partie intégrante en fait, de tout ce qui a été fait, du début à la fin de l'histoire. Donc, ils deviennent vraiment acteurs d'un projet qu'ils ont choisi, et ils peuvent s'impliquer comme ça dans la recherche, parce que, encore une fois, parce que c'est local ou parce qu'ils ont un proche qui a été atteint par une maladie. Donc, je trouve ça bien de donner la possibilité aux citoyens de s'investir dans un organisme, dans un projet de recherche précis. Alors, il y a déjà des choses qui existent, par exemple, si on souhaite financer la recherche contre la sclérose en plaques, on peut donner à une association qui finance la recherche contre la sclérose en plaques, mais on ne sait pas forcément quel projet en particulier on va financer, on ne sait pas forcément quelle part de l'argent donné va financer le projet de recherche. Là, il y a une grosse différence avec le financement participatif comme ce qu'on a choisi de faire, c'est que le citoyen sait exactement quel projet il finance et il sait que 100% de ce qu'il a donné va permettre de financer le projet de recherche. Et en plus de ça, il a un retour régulier, enfin aussi régulier que possible, du chercheur sur l'avancée du projet. Donc il a, c'est un petit peu comme un feuilleton avec, on espère, une fin heureuse.
Donc ça veut dire que si on fait appel au financement participatif, la recherche arrive au même plan qu'un concert ou un projet culturel ?
Je pense, pourquoi pas. Je vois aucune raison pour que on ne puisse pas, en tant que citoyen, financer des initiatives qui nous semblent pertinentes ou qui nous tiennent à cœur. Je pense que pour les instances politiques, c'est important de peut-être mettre sur différents plans La culture, la santé, la politique, l'immobilier, n'importe quoi. On ne peut pas mettre tout sur le même plan. Il ne faut pas attribuer les mêmes financements à tous ces secteurs. Mais pour un citoyen, je trouve que c'est important de lui laisser la possibilité de financer ce qu'il veut. Et de lui donner la possibilité, s'il le souhaite, de le faire.
Vous pensez qu'il y a autant de personnes, de citoyens qui vont être, se sentir concernés par un projet de recherche autour de l'hépatite B ou de l'hépatite E que de personnes qui vont se sentir concernées par un projet culturel ?
C'est une bonne question. Ça soulève surtout une autre question qui est la part respective des financements dans la recherche, la part des financements participatifs, la part des financements récurrents par les tutelles, l'université, INSERM, l'État. Quelle part de nos dépenses doit être assumée par nos tutelles, doit être assumée par le financement participatif ? Je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est un débat ouvert à la communauté des chercheurs, à l'ensemble des citoyens. Et je pense, sans avoir une réponse ferme, on le voit aujourd'hui avec la crise du coronavirus qui permet à chacun de prendre conscience de choses qui ont toujours été là. On le voit l'importance de la recherche en amont et pas simplement de la recherche dans l'urgence. Je pense que la réponse, vous l'avez compris, et qu'il faut soutenir de manière continue, prolongée et importante, intense, la recherche en France. Si on veut assurer à la fois une santé de qualité et une innovation et une autonomie pour la France. Donc je pense que la recherche est clairement un point important à soutenir.
Oui, c'est une évidence, mais plus on sollicite le citoyen, moins on sollicite l'État, peut-être, lorsqu'il n'y a pas un danger que l'État se dise « bon, bah ça va, alors si les gens financent eux-mêmes...
» À travers ma réponse, en fait, je voulais plutôt insister sur l'importance de solliciter l'État, qui bien sûr, à travers l'État, on sollicite les citoyens, mais de manière un peu plus large et un peu plus systématique. Je pense que clairement, ma réponse va dans le sens, je l'espère, d'un investissement plus important, plus prolongé, plus intense de l'État dans la recherche en France, quelle qu'elle soit, et pas simplement une recherche basée sur un effet de mode ou d'actualité.
Je pense que ce n'est pas du tout incompatible, en fait, les financements récurrents, donc administratifs, que l'État ou la région ou l'Europe distribuent, et ces financements participatifs qui sont des financements qui sont d'un montant en général un petit peu plus limité. Les financements participatifs, ça donne l'occasion à des gens qui auraient voulu, enfin qui voudraient bien participer au financement de la recherche, mais qui n'osent pas trop, qui se méfient un petit peu des grands organismes, qui se demandent où va partir leur argent. Et comme disait Julien, là, en fait, ils ont une très bonne visibilité de ce qui va être fait avec leur argent. Et du coup, là, ils sont prêts à le faire. Et j'en ai discuté avec pas mal de gens. Et voilà, ça amène des gens qui, a priori, n'auraient pas tellement pensé à vouloir financer la recherche, à mettre de l'argent dans la recherche et à y participer, à se sentir investi un petit peu par ce système-là. Mais l'État... et les régions et l'Europe continuent à financer la recherche. Il n'y a pas de vase communicant. Hein. Ce n'est pas parce que les gens commencent à donner de l'argent par les financements participatifs que l'État va en donner moins. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et par contre, donc, l'État, les régions et l'Europe, eux, donnent des sommes qui peuvent être extrêmement importantes pour des projets qui impliquent plusieurs labos, voire plusieurs pays. Et ce n'est pas du tout incompatible, justement, ça donne l'occasion à des gens qui, a priori, n'auraient pas pensé à financer la recherche, de pouvoir faire ce pas, de pouvoir faire ce geste, et de contrôler ce qui va être fait avec leur argent. Et ça leur plaît beaucoup, en fait. C'est juste, justement, une source de financement supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose qui va amener l'administration à nous financer moins. Ce n'est pas ça, c'est une source de financement supplémentaire qui va nous permettre de travailler encore plus, aller encore plus vite à gérer encore plus de projets. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de menaçant pour les, pour les financements récurrents, pas du tout, au contraire, c'est quelque chose de positif qui va nous permettre justement de travailler de façon un peu plus confortable, d'avoir un petit peu plus d'aisance financière. Vous y tenez, hein, on sent quand même que c'est un sujet qui vous perturbe beaucoup, ça, le fait que l'État désengagé de la du financement de la recherche avec ça. C'est pas, je pense pas qu'il faut tout voir comme ça de façon nécessairement négative. Alors si on donne de l'argent de cette façon-là, alors les autres vont se désengager, pas nécessairement, ça peut être plus d'argent pour la recherche, tout simplement. Personnellement, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Je pense que les choses peuvent se passer de façon tout à fait harmonieuse et que le pire n'est jamais sûr. Hein. On peut toujours voir le côté verre à moitié vide, je pense.
Oui, alors peut-être qu'on peut revenir sur vos travaux sur l'hépatite E, sauf si vous voulez ajouter quelque chose d'optimiste, messieurs, je ne sais pas.
Oui, alors, je vais, effectivement, Julia et moi, on travaille en association sur un projet qui vient de débuter, qui est un projet financé par la région. Personnellement, je vais commencer par parler des travaux achevés du virus de l'hépatite E, qu'on a initié au laboratoire il y a quelque temps. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est des travaux qui ont été initiés parce que, grâce au système qu'on avait mis avec Eric Pivert, on a pu visualiser en microscopie électronique nos particules du virus de l'hépatite E et s'apercevoir qu'elles avaient une structure et la population avait des caractéristiques qui les rapprochaient du virus de l'hépatite C. Et donc on s'est lancé, nous, sur la caractérisation de ce virus en rapport avec le métabolisme des lipides. Et on a beaucoup avancé sur ce sujet-là, puisqu'on a commencé à travailler dessus il y a à peu près 2 ans. Et donc maintenant, on a la certitude que ce virus, effectivement, utilise des composants du métabolisme des lipides, et notamment la polypoprotéine E. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre de quelle façon exactement est impliquée cette apolipoprotéine E, qu'on appelle APOE, dans le métabolisme, enfin la morphogénèse et le métabolisme du virus de l'hépatite E, quelles sont les séquences qui permettent à cette protéine d'interagir avec le virus de l'hépatite E. C'est assez important en fait parce que on s'est aperçu que cette APOE était aussi un élément fondamental dans la morphogénèse du virus de l'hépatite C et du virus de l'hépatite B. Ce qui signifie que si on arrive à caractériser le rôle de cette protéine dans la morphogénèse du virus de l'hépatite E, si on arrive à caractériser les séquences d'interaction de cette protéine avec les virus, et si on arrive à avoir une idée assez précise de la façon dont on peut utiliser cette protéine contre les virus, puisque les virus en ont besoin, alors on peut cibler cette protéine pour imaginer des stratégies thérapeutiques qui permettraient de traiter 3 virus de familles extrêmement différentes, parce que le virus de l'hépatite C, les E et B appartiennent à des familles extrêmement différentes, avec la même protéine, avec la même cible thérapeutique. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, essayer de caractériser avec précision de quelle façon cette protéine APOE est impliquée dans le métabolisme du virus de l'hépatite E. On sait à peu près comment ça fonctionne pour le virus de l'hépatite C, on commence à comprendre pour le virus de l'hépatite B, mais notre objectif, c'est ça, c'est utiliser une protéine, et qui est une protéine du soi, donc on la connaît bien, elle est invariable, elle a toujours la même séquence, pour traiter des virus qui sont très différents et qui, eux, par contre, peuvent évoluer, leur séquence peut évoluer, ils échappent au système immunitaire justement grâce à ça, parce que leur séquence évolue, leur structure évolue. Mais là, on a une cible unique, invariable, pour traiter 3 virus. Donc voilà, maintenant on s'intéresse à ça au laboratoire, enfin, en ce qui nous concerne. Et donc, il y a quelques mois, on va dire 1 an à peu près, on a obtenu un financement région, pour travailler cette fois sur des modèles animaux. en ce qui concerne le virus de l'hépatite. Ça, donc, Julien va vous en parler, puisque ça le concerne plus directement.
Oui, effectivement, on a la chance, au niveau régional, d'avoir une plateforme d'infectiologie expérimentale à l'INRA, à proximité de Tours, à Nouzilly, qui nous permet d'étudier les virus, certaines infections virales, avec des modèles animaux. En l'occurrence, le virus de l'hépatite E, nous, on peut se contaminer par le virus de l'hépatite E en mangeant de la viande de porc mal cuite. Donc, le modèle idéal pour étudier le virus de l'hépatite E, c'est le porc. C'est un virus qui infecte très bien les porcs, en élevage notamment, enfin en élevage. Et donc, on peut utiliser les modèles animaux porcins pour mieux comprendre qu'est-ce qui fait la gravité de l'infection chez certains patients infectés par le virus de l'hépatite E. Donc, on a mis au point un projet qui associe à la fois notre équipe avec des chercheurs qui travaillent sur des aspects plus fondamentaux comme Jean-Christophe, des chercheurs qui travaillent sur des aspects plus cliniques comme moi-même et puis d'autres personnes dans l'équipe, et qui associe aussi l'INRA, donc à Nouzilly, qui a la compétence et l'expérience pour développer des modèles animaux. Donc la question qu'on a souhaité poser, c'est pourquoi certains patients font des infections chroniques au virus de l'hépatite E. Alors on sait que les infections chroniques par le virus de l'hépatite E, c'est ce qui fait la gravité de l'infection. On sait que ça survient chez des patients immunodéprimés, mais ça ne survient pas chez tous les patients immunodéprimés. Donc nous, on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a certaines caractéristiques du virus qui font que l'infection devient chronique et devient grave et problématique pour le patient. Donc pour répondre à cette question, évidemment, on ne peut pas étudier ça facilement chez l'homme, mais on peut reproduire l'infection chez le porc et essayer de comprendre comment évolue l'infection vers la chronicité, pourquoi elle évolue vers la chronicité, est-ce que c'est lié à des déterminants viraux. Et donc c'est ce qu'on va essayer de regarder chez le porc dans ce projet qu'on a écrit, qu'on a imaginé tous ensemble, donc à trois mains, et qu'on a soumis à la région en expliquant que voilà, c'était pertinent, parce que la question scientifique était pertinente, parce qu'on avait tous les acteurs au niveau local qui avaient l'expertise. Donc la région a choisi, notamment pour ces raisons, de financer le projet. C'est un projet qui est en cours, qui s'étale sur plusieurs années, donc qui implique notre équipe, qui implique l'INRA, qui impliquera des chercheurs des différentes équipes, qui impliquera des post-doctorants qui vont venir sur ce projet, des doctorants qui sont venus et qui viendront sur ce projet. Donc c'est vraiment quelque chose de large, de collaboratif, de multidisciplinaire, et qui, j'espère, nous amènera beaucoup de résultats intéressants et une meilleure compréhension de l'infection chronique par le virus de l'hépatite E.
Donc, comme vous le dites, Julien Mallet, c'est un projet qui va s'étendre sur plusieurs années. Donc, dans un projet comme celui-là, est-ce que vous voulez donner à voir quelles sont les différentes étapes à valider avant qu'il y ait une application possible chez l'homme ?
Une application, c'est compliqué parce que tous les projets de recherche n'ont pas forcément vocation à aboutir à une application. Ça peut être une compréhension aussi de quelque chose. La finalité directe n'est pas forcément le développement d'un nouveau test ou d'un nouveau traitement. Mais de manière quand même, pour essayer d'être le plus concret possible, ce qui peut aboutir de ce projet de recherche, sans vouloir inventer des résultats qui ne sont pas là, mais ce qui peut aboutir de ce projet, c'est en tout cas une meilleure description des virus impliqués dans les infections chroniques et graves par le virus de l'hépatite E. Donc si on arrive à décrire précisément des marqueurs viraux qui sont impliqués dans ces formes chroniques et graves, on peut proposer la recherche de ces marqueurs viraux dans le suivi des patients à l'hôpital, Encore une fois, si c'est pertinent, si on montre que c'est pertinent pour le suivi des patients, ça peut être recherché dans les laboratoires de virologie et permettre d'identifier assez précocement les patients qui vont évoluer vers des formes chroniques et graves. Et donc, peut-être, ça peut permettre de les prendre en charge plus précocement, d'adapter leur traitement pour éviter que ces formes chroniques et graves apparaissent ou pour les traiter, les prendre en charge plus rapidement.
La situation commande l'urgence et on en parle. Jadis à nos portes, le coronavirus est désormais chez nous ici au Faso. Deux cas de coronavirus confirmés hier par le gouvernement. Et sans être alarmant toutefois, la ministre de la Santé rassure des populations que les dispositions ont été prises.
La connerie est réelle, on ne joue plus. La planète en confinement, qui l'aurait cru? Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas. Que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais le Vatican est fermé, les mosques se sont vidées. L'Italie est internée, la France depuis sous ses lits. Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc. Que Mamadou le guérisseur a son médicament. Et les rumeurs disent que c'est une attaque biologique. Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique.
Donc mieux vaut prévenir que mourir dans ce contexte. Protéger c'est secourir les autres, faire le bon geste.
Oh, donc lave-toi les mains très régulièrement. Oh, avant de tousser, mets le coude en avant. Oh, utilisez mouchoir à usage unique. Oh, si tu te sens pas bien, cours vite à la clinique.
Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps. Virus qui tue. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus qui tue.
127 morts, plus de 5400 cas enregistrés. Est-ce que le stade 3 décrété hier est suffisant ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin et aller vraiment vers un confinement total?
Je voudrais quand même faire une petite remarque qui est importante, c'est remercier nos financeurs, parce que on est financé par un certain nombre d'organismes, et je pense que de temps en temps il faut les remercier. Donc le Ludo 59, qui est dirigé par Philippe Roingeard, bénéficie d'un certain nombre de financements qui viennent de différentes origines. Et donc je voudrais remercier d'abord l'ANRS, l'Agence nationale pour la recherche sur le sida et l'hépatite virale, qui nous finance régulièrement, même si c'est assez difficile d'obtenir des financements avec eux. Je voulais aussi remercier la région Centre, qui nous finance de façon extrêmement fidèle depuis des années, et il faut quand même le dire, on aurait un peu de mal à s'en sortir sans elle. Et donc voilà, un grand merci à la région Centre. Et moi-même, je suis en train de mettre au point un financement participatif avec Télé. Et donc, je voudrais aussi les remercier. C'est des gens qui ont mis ça au point. Enfin, ce sont des chercheurs qui ont mis ça au point, comme ça, parce qu'ils sentaient qu'il y avait un besoin. Ils ont beaucoup travaillé pour mettre ça au point et il faut les en remercier. Voilà.
Effectivement, un grand merci à Télé, aux personnes qui l'ont fondé et aussi, bien sûr, à tous les donateurs. Et merci aussi à la région Centre.
Merci à Jean-Christophe Meunier et Julien Marlet pour avoir répondu à nos questions. À tous, une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Cette émission est à retrouver en podcast sur le www.radiocampustour.com.